Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
C'est la nouvelle chanson de Patsy Galland. Il y a un nouvel album, il y a plein de projets intéressants. Elle est avec nous ce matin. Patsy, bonjour.
Bonjour, Paul.
Et comme à ton habitude, ça c'est la version francophone, française.
Oui, et je l'ai fait en anglais aussi.
On a ça aussi. Oui.
Qui a été numéro 1. Ah! La, 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 merci. Numéro 4 à Londres. Pas pire à une femme de 74 ans.
Bientôt 75.
Bientôt 75, rappelle-moi les pas. T'es pire que Véro.
Mais... d'abord, ces chansons qu'on retrouve sur cet album, ce sont des chansons que tu as écrites depuis longtemps.
Depuis très longtemps que j'ai entré en studio, que j'ai peaufiné. Et pourquoi je les ai pas sorties avant, je vais te répondre à une question peut-être que tu me demanderas. Parce qu'il y avait plein de raisons. D'abord, elles étaient plutôt en anglais. Ensuite, j'avais peur que ce soit pas Sugar Daddy. Et j'avais peur qu'on aime pas le genre de chansons que je fais parce que vraiment il y a du rock, il y a du blues, il y a du gospel, il y a du pop, il y a du disco, il y a tout sur cet album là. Et malgré tout, j'ai réussi à écrire 4 chansons en français. Et je l'ai pas fait, puis il y avait une question d'argent aussi hein. J'ai tout fait ça tout seul pas tout seul, j'ai eu un réalisateur extraordinaire, j'ai réalisé avec Tibas, Jean-Sébastien Fournier. Mais j'avais peur, surtout pour l'anglais, surtout parce que j'avais peur qu'ils aimaient pas mes tunes. Puis rendu à un certain âge, je me suis dit, ben garde, c'est mon bucket list, là. Qu'on aime pas, voilà que je le fasse, parce que fallait que j'exorcise les choses. J'avais des choses à dire. Écoute, j'ai écrit sur 9-11, il y a des chansons engagées, j'en suis très, très fière.
Mais ce qui est frappant chez toi, puis j'ai regardé le documentaire qui a été fait il y a quelques années, mais c'est assez récent là, quand même, et il y a des artistes qui ont eu d'immenses succès puis qui vont surfer pas mal toute leur vie quand ils sont moins dans l'œil du public puis qui ramènent les succès qui sont rassurants. Puis que...
oui.
Toi, tu le fais, mais t'amènes tout le temps quelque chose de nouveau. C'est comme si t'as toujours un projet. Je t'ai vu à Zénith, je me suis dit, c'est pas une femme de 74 ans, t'avais l'air en pleine forme, ouais.
Ça transcende, tu sais, de toute façon, là, je n'ai qu'un numéro, mais moi, quand je monte sur une scène, j'ai la même âge que les danseurs, 20 ans. Ça, la musique transcende. Et puis, c'est un show que j'ai adoré faire, Véro puis Louis, toute cette équipe a été extraordinaire. Et je voulais pas le faire au début parce que j'ai dit, j'ai pas envie de me faire dire que je suis pas bonne puis que je vais pas gagner. Ça, c'est l'ego, comme je disais. Mais après, quand ils m'ont parlé puis ils m'ont convaincu de le faire et que c'est que j'avais carte blanche et que je pouvais amener tous les projets que je voulais, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire puis j'ai adoré. J'ai fait jusqu'à la demi-finale puis j'aurais continué sincèrement, j'en avais pas assez.
Mais... tu rebondis constamment aussi, c'est-à-dire que bon, on se souvient des grandes années là avec
Sugar. From New York to LA.
Oui. Puis en fait l'émission de télé.
Oui,
puis tu
oui, Patsy Galland Show. Oui.
Bon, et après ça, tu dis bon, ça a été plus tranquille. Reviens dans Starmania. Tu devais être quoi, quelques mois à Paris, puis t'as passé combien de temps?
8 ans consécutifs dans le même rôle.
Puis t'as pas manqué une représentation?
Non. Non, non, sûrement, j'en ai sûrement manqué une, là. Mais malade, pas malade.
Luc Plamondon dit que non.
Il disait, oui, je sais, mais il exagère des fois, mais on n'avait pas de doublure. Puis qui sait qu'elle allait la faire? Ben non, Patty est capable, Patty est capable. C'est toujours Patty est capable. Tu sais, moi, je suis montée avec des pneumonies, là. J'ai chanté avec des, ça n'a aucun bon sens ce que j'ai fait. 8 ans consécutifs. 7 shows, 8 shows, 7 shows par, en 6 jours. ou 8 shows, je me rappelle plus, là. Il y en avait deux le samedi, vendredi soir, samedi, 2, dimanche après-midi, on était KO, là.
À quel moment t'as pris le contrôle de ta carrière?
À 3 ans. Non, j'exagère.
Je pense que ta mère prenait
ouais,
pas mal le
c'était maman, ouais. C'était maman. Je dirais vers les, là, quand j'ai quitté la maison familiale, à 18 ans, j'en avais marre. J'ai dit, je veux faire mes affaires à moi, puis je suis partie à 18 ans.
Mais est-ce que tu avais vraiment le contrôle?
Ben, au début, tu sais, quand on est jeune, j'avais déjà l'expérience des cabarets à 8 ans. Les 4-5 premières fois que j'ai travaillé tout seul avec des propriétaires véreux, ils me payaient pas. Puis la prochaine fois, j'ai dit, vous allez me payer d'avance. Fait que j'ai appris bien vite. Puis je faisais des contrats, puis j'y arrivais. Je sais pas comment j'ai fait, puis après ça, ben j'ai eu les shows de TV. Tu sais, j'ai fait 2 shows de TV à 18 ans, 19 ans avec Chantal, comment elle s'appelle, Chantal, une Française qui a marié avec actrice. Et puis elle a sorti avec Bernard, en tout cas, whatever. Puis Geneviève Bugeaud, c'était
Chantal
deux
Renaud.
Émissions. Oui, Chantal Renaud, ils étaient les animateurs avec Geneviève Bugeaud, et c'était une émission en anglais le jeudi, puis en français le mercredi. Je faisais toutes les covers. On faisait ça à la Palais National. Ça a été mes
Mais
premiers shows.
Mais tu roulais à une cadence.
Oui, j'ai arrêté très peu. Hein. Il y a eu un trou noir dans les années 80, là, quand tout le système a changé, les cassettes, puis puis quand Internet a commencé, là, ça a été très dur. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'Internet, quand Internet a commencé, j'étais à Paris. T'sais. Mais il y a eu un trou noir, ça a duré un an, là, pas plus, puis jamais arrêté. J'arrête pas encore. C'est la plus grosse année que j'ai jamais faite. Je comprends pas. Je dis, sont-ils en train de se dépêcher parce que je vais mourir? C'est pas là. J'ai pas envie de mourir tout de suite, mais là, je suis encore dedans.
Mais je le dis, c'est incroyable. Dans le documentaire, on te voit la tournée des idoles, on te voit un spectacle en plein air, t'en donnes à ton public, t'as le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ah oui, je peux faire des shows d'une heure, des fois ça dure 2 heures. Puis je reste 1 heure, 2 heures avec les gens après, hein, pour signer des autographes, puis je signe mon livre, Patty Galland, Technicolor, je voulais te l'amener, je m'excuse, mais il paraît que t'as eu le digital.
Oui.
Et puis, moi, je suis toujours là pour eux autres. Il y a seule différence aujourd'hui que je reste assis après. Je me lève plus. Je lui vois une photo, ben, venez à côté de moi.
Une question personnelle que je vais te poser parce que, en voyant le documentaire, la relation avec ton fils, comment ça se passe? C'est-à-dire que, on sent que c'est hate and love, là. C'est-à-dire que...
Oui, ils appellent ça. Il y a un psychologue, je dis, on a une fusion entre nous deux. Elle dit, fais attention parce que fusion, faudrait regarder dans le dictionnaire. J'ai regardé, c'est assez incroyable. C'est vraiment le cordon ombilical, là, qui coupe pas. Et ça peut être confusion aussi. Mais, tout va bien. Il peint aujourd'hui, il chante moins. Il est dans son propre appartement qui est très difficile à trouver. En passant, j'ai juste entendu dire les appartements là
ouais.
à bon prix, il y en a pas, ça a pas de bon sens là, faut changer ça. Il y a du monde dehors dans la rue là, ça a plus de bon sens là, faut faire quelque chose. Ils ont monté son loyer là, je sais pas, de 45-50 $ par mois. Ça n'a aucun sens. En tout cas, je suis pareil moi aussi dans mon appartement. Et puis non, il peint maintenant, puis c'est absolument hallucinant ce qu'il fait. J'ai un spécialiste qui est mon avocat Georges San qui est un expert en peinture. Il dit cache ces affaires là. Il dit c'est un Basquiat, il fait toutes sortes de choses. Il est
talentueux.
Ben oui, il chante, un comédien, il fait de tout, tu sais.
Mais c'est vrai qu'il y a eu de la vague dans vos relations.
Ben oui, c'est normal. Hein? Un gars qui reste chez toi, là, un moment donné, t'en peux plus, là, tu sais. Puis moi, j'ai plus la même âge que lui, là, qui, tu sais, sa musique forte, puis... Mais tout va bien, là. Tout va bien.
Là, quels sont les projets? Là? Tu dis que jamais t'as été sollicité autant. Là. Qu'est-ce que t'as sur mon nouvel album, bien sûr?
Ah, mon nouvel album, patsyboutique.com, parce que je le vends encore, comme c'est moi qui ai tout payé. Éventuellement, je vais le mettre sur partout sur les réseaux. Vous pouvez trouver 4 chansons là, sur YouTube et tout ça. Mais il faut bien que je les vende. C'est moi qui l'ai payé. Là. J'ai P.A. Métaux qui m'a invité, que je connaissais même pas. Il m'invite au Centre Vidéotron, imaginez-vous. Puis là, il y a une émission de télévision ou de télévision, je pense, qui viennent m'inviter, là, j'ai essayé de les rejoindre, ils m'ont pas rappelé, mais ils vont sûrement m'appeler. Alors, j'ai très hâte de faire ça. Le thème, c'est la plage, puis je viens d'arriver de Cuba, ça tombe bien, je suis bronzée. Fait que j'ai très hâte de faire ça avec lui, il a l'air bien le fun. J'ai aussi le steak rouge à Longueuil que je vais faire le 18. Il reste encore des billets, alors c'est un supper club. Venez nous voir, ça me ferait plaisir d'accueillir tout le monde. Je viens de faire mon vidéo. Je dis, cette année, je n'ai pas arrêté. Un album, le vidéo, les tournées, j'arrête pas.
T'es plus que la reine du disco, là.
Ouais.
Ben, c'est-à-dire que tu as comme une palette très large en termes de performance.
Oui,
ben c'est pas juste Sugar Daddy, là.
Non, puis est-ce que les gens savent pas avant que j'ai fait du disco? J'avais fait du funk, du blues.
Ben oui.
Si tu regardes toutes mes... J'ai quand même 30 albums, là, en anglais pas en français. J'étais une des premières qui avait fait des albums français-anglais. Tu sais, quand t'en fais un en français, t'en fais un en anglais. J'étais une des premières qui avait fait ça. Puis je suis contente que j'ai pas fait ça pour mon album, parce que pas toutes les chansons se traduisent ou s'adaptent bien. Et ceux que j'ai fait en français sont vraiment en français. Et Around the World, je l'ai fait parce que il y en a deux chansons que j'ai écrites, co-écrites avec des Français. Et c'est justement Around the World et Mon bel indifférent, dont j'ai écrit les paroles. Eux, ils ont écrit la musique. Le reste, c'est tout moi. Les 18 chansons qu'il y a sur le disque, c'est paroles et musique, c'est moi qui les ai écrites.
Ben, bravo. Merci beaucoup, Patty, d'être venue ce matin.
Je vous adore. Merci, Paul.
Au plaisir. Patty
Galland. Au plaisir.
Vous avez la liste complète, à votre avis, jusqu'à 95-96. Après quoi, tu penseras une retraite, peut-être, même pas.
Jamais.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Quand Mike Ward a annoncé qu'il allait créer des balados, des podcasts, on s'est dit, bon, ben, ça vient s'ajouter à une offre qui est déjà là. Et là, on s'est mis à regarder ça d'un peu plus près. Et ça a débouché sur ce phénomène incroyable. Et notamment, quand tu dis présenter et enregistrer un podcast au Centre Bell devant plus de 21 000 personnes. Mike Ward, bonjour.
Bonjour.
C'est complètement pété, votre
Ça n'avait aucun sens. Le Centre Bell, en plus, ils ont manqué de bière. Qui est le seul soir de l'histoire du Centre Bell. Ils ont vendu, tu sais, c'est la famille Molson, là, tu sais, c'est la bâtisse qui a le plus d'alcool probablement au Canada. Ça a aucun sens.
Mais là, c'est plus de 20 000 personnes qui s'installent au Centre Bell pour regarder des humoristes assis en table ronde comme un show de radio.
Ouais, pour écouter une discussion. Tu sais, je dis souvent, mettons, la radio, c'est comme écouter quelqu'un à table d'à côté. Puis un podcast, c'est comme être assis à table avec le monde. Fait que c'est des discussions que si t'as jamais écouté sous écoute et que t'as pas d'intérêt t'as pas d'intérêt pour l'humour, t'écoutes ça pis tu fais, voyons donc, pourquoi que le monde écoute?
Mais moi, je comprends les gens qui écoutent un podcast, qui sont intéressés.
Ouais, ouais.
Mais là, je me dis, quand je vais voir un show au Centre Bell, tu t'attends à un déploiement sur une scène, tu dis, il va y avoir quelque chose, bon. Comment t'expliques? Puis au départ, aviez-vous des craintes de dire est-ce que les gens vont suivre? Comment ça va se passer?
Au début, moi, je me disais, il va arriver une de deux choses. Soit ça va vraiment vendre, puis tant mieux, ou ça vendra pas pantoute, puis que ça va être encore plus drôle. Tu sais, je me disais, faire le Centre Bell avec 800 personnes dans la salle, il y a de quoi de drôle. C'est tu sais, mettons, faire un show au Centre Bell devant 800 personnes, c'est dur pour l'ego. Mais là, vu que c'est des discussions avec des amis, je me disais, ça va nous faire des anecdotes. Hey, tu te rappelles-tu dans le temps que tu pensais remplir le Centre Bell puis il y avait 800 personnes?
Pourquoi un podcast? Qu'est-ce qui a fait en sorte, au départ, que vous avez dit, je fais ça?
Ben moi, chaque fois que je faisais de la radio, on m'engageait souvent comme chroniqueur, mais on me donnait jamais mon propre show. Et il y avait aucun poste de radio qui voulait de moi. Puis quand les podcasts sont arrivés, je me suis dit, hey, je pourrais faire un show comme moi je veux faire, tu sais, puis que la télé m'aurait jamais laissé faire, que la radio m'aurait jamais laissé faire. Je vais le faire, je vais faire genre de truc que moi m'intéresse. Puis au début, on a commencé sous écoute en 2011 et les premiers épisodes, il y avait peut-être 400 personnes qui écoutaient. Puis au lieu de me dire, hey, c'est pas beaucoup comparé, mettons, au 98.5, je me disais, 400 personnes, c'est comme le théâtre le Jésus. Fait que je me suis dit, c'est comme le Jésus, puis je me déplace même pas. Puis après, là j'étais, il y avait autant de monde que le Saint-Denis. Puis après, il y avait autant de monde que, mettons, Drummondville. Puis après, là c'est juste, ça a grossi, mais ça a été quand même lent. Tu sais, ça a commencé en 2011, puis ça a commencé vraiment à marcher peut-être en 2017.
Mais là, tu soulèves un point qui est intéressant. Si la télé aurait refusé ce genre d'émission-là. Si la radio t'aurait dit non, puis ils t'ont jamais rien offert, puis que là, tu dis, là, je fais ce que je veux, puis ça a pris du temps, OK, mais ça marche.
Ouais.
C'est quoi le message aux diffuseurs traditionnels?
Ben ça dit écouter les artistes. Quand un artiste arrive avec une idée, tu sais, ça veut pas dire laisser les artistes et les artisans faire ce qu'ils veulent. Mais tu sais, le monde qui connaissent le plus la radio, c'est des gars comme toi. C'est du monde qui sont en onde, qui sont sur le terrain, que c'est puis souvent ben tu sais, toi c'est pas ça là, tu sais, vu qu'avec l'expérience t'as puis avec le succès t'as, il te laisse faire ce que tu veux. Mais un jeune Paul Arcand qui arrive avec une idée, ils sont plus réticents.
Mais ça veut dire que là, quand tu dis « j'ai fait ce que j'avais envie de faire », qu'est-ce que tu as pu faire que tu n'aurais pas pu faire à la radio ou à la télévision?
C'est juste mes choix d'invités. Tu sais, souvent, moi, il y a une fierté que j'ai avec Sous-Écoute. Tu sais, la première fois qu'on a entendu Christine Morancy, c'était Sous-Écoute. Arnaud Solli, c'est Sous-Écoute. Pepper. Puis de prendre des gens, soit des plus vieux qu'on voit plus à télé parce que c'est plus des A, ou des jeunes qu'on voit pas parce que ils sont pas connus. J'aime ça donner des chances à ce monde-là.
Est-ce que c'est vrai que tu as refusé une offre de plusieurs millions de dollars?
Oui, j'ai reçu une offre de 7,5 millions qu'on a refusée parce que quand j'ai commencé à faire ça, je pensais pas faire de l'argent avec ça. Et quand j'ai commencé à faire de l'argent avec ça, je fais assez que tu me donnes 5 millions, peut-être 10 millions, là, je commencerai à y penser, là. Mais, tu sais, un coup que tu gagnes assez pour payer tout ce que tu veux, tout ce que tu as de besoin, je trouve la liberté est plus importante pour moi que l'argent.
La radio, la télé, c'est local, entre guillemets. Le web, c'est international. Ouais. Est-ce que tu t'es fait découvrir ailleurs grâce à ça?
Oui, je sais que comme pour l'Europe, là, vois-tu, avec la tournée, on a 4 dates en Europe et j'avais aucune idée comment ça allait aller. Puis à Bruxelles, on a été sold out en 2 jours, puis Paris 4 jours. Puis moi, je parle très 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 québécois là. Tu sais, c'est fait qu'on va aller là-bas, ça va être exactement un Sous-Écoute comme ici, dans des salles pleines, sans être obligé de, tu sais, je vais pouvoir dire un gars, je serais pas obligé de dire un mec. Vu que j'ai remarqué les accents, tu sais.
Mais qu'est-ce qu'ils te racontent, ces gens-là, ces fans que tu vas aller voir sur place là-bas?
Bien, là, moi, c'est la première fois que je vais là, mais c'est arrivé une cinquantaine de fois que, tu sais, on enregistre tout le temps au bordel à Montréal. Et il y a souvent des Français. Puis là, je leur demande, c'est arrivé une cinquantaine de fois, « Ah, est-ce que vous êtes des Français qui vivent à Montréal? » Non, non, tu sais, il y en a qui viennent, tu sais, juste pour voir Sous-Écoute. Puis à chaque fois, je leur demande, « Est-ce que, mais c'est quoi la vraie raison? T'avais-tu un mariage? T'es-tu venu pour l'école, le travail? » Non, on voulait assister à un épisode. Fait que là, moi, je me sens quasiment comme leur père ou leur mère. Je suis comme, « OK, ben là, je vais t'organiser des sorties. » Fait que là, je leur book des shows pour pas qu'ils fassent juste le voyage pour Sous-Écoute.
Mais là, est-ce que tu penses à rebâtir un spectacle, à refaire une tournée Mike Ward sur scène?
Oui, ben là, c'est ça que je suis en train de faire. Cet été, là, j'ai à peu près 45 minutes d'écrit rodé. Puis on va commencer le rodage à la fin de l'été, que là, je vais avoir une heure qui est pas bonne encore, mais c'est pas gênant. Tu sais, comme je l'ai fait pour la première fois la semaine passée, puis tout le monde est sorti en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je veux pas que le monde paye pour me voir puis qu'il fasse « Ah, ouais, ils sont bons, les nouveaux. » Tu sais, je veux pas que...
As-tu peur de ramollir, de dire « Je vais moins les provoquer qu'avant, ils vont... »
Non,
non, t'as pas peur de ça?
Non, non, non. Moi, mon but, c'est juste de rester moi-même. Puis de tu sais, souvent, ce qui est dangereux, là, en vieillissant, c'est que des fois, tu peux avoir une idée, on entend tout le temps, on peut plus rien dire, qui est totalement faux.
Ça,
on peut tout
ça,
dire.
Ça t'a jamais empêché, ben.
Oui, oui, oui. Puis souvent, tu sais, j'entends le monde qui font, ouais, mais tu sais, c'est moins populaire ce genre d'humour-là que c'était. Puis moi, ma réponse, c'est, hey, j'ai battu un record au Centre Bell. Tu sais, fait qu'il y en a encore du monde qui aime ça, l'humour osé. Même, je pense que c'est encore plus populaire qu'avant, vu que là, on sent une retenue partout. Fait que de voir un show qu'il n'y a pas de retenue, le monde aime vraiment ça.
Mais tu sais, prenons quelques exemples récents. Là. Claude Meunier ramène La Petite Vie. Ouais. À l'époque, tu disais des affaires dans La Petite Vie. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller jusque-là? Un gars, une fille, est-ce qu'on peut aller... Est-ce que tu sens que quand on ramène des concepts comme ça, il faut les présenter comme c'était à l'époque, puis les gens feront avec, ou s'il faut les adapter au goût du jour?
Moi, je pense que c'est un mix des deux. Moi, je pense comme La Petite Vie, il faut que papa parle comme papa. Puis tu sais, même si le Québec a évolué, papa, un monsieur de même a pas évolué. T'sais, tu parles à un monsieur de même, il parle exactement comme il parlait dans les années 70, les années 80, 90. Fait que je pense le show, la seule affaire, peut-être une phrase un peu wrong, désolé pour l'anglicisme. Les autres personnages, il faut qu'ils fassent plus, ben voyons, ça se dit pas. Mais je pense le personnage principal, il faut qu'il reste pareil.
Ben, merci beaucoup d'être venu donc tourner avec le podcast, spectacle en préparation. Ouais.
Et j'anime le Gala Babel pour le Festival Sexclam en fin de semaine. C'est samedi qui arrive. C'est les meilleurs humoristes de la francophonie et le meilleur belge, le meilleur français, le meilleur québécois. Et à l'époque, souvent, on pensait qu'ils sont pas bons en Europe, mais ils sont tellement bons à cette heure. La nouvelle génération sont incroyables grâce au web.
Merci, Mike.
Merci beaucoup.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
J'amène maintenant en Afrique, au Kenya. Je suis ça depuis un certain temps. Il y a eu un article en fin de semaine dans le New York Times sur ce massacre. Il y a au moins, je dis bien au moins 200 victimes qui ont été exhumées. C'est un culte chrétien, c'est un pasteur apocalyptique, un ancien chauffeur de taxi, qui est devenu une espèce de gourou, un messie, et qui a convaincu ses membres de se laisser mourir de faim. Et ça a été un long processus. Alain Pronkin est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Paul.
Bon, parle-nous d'abord de cette secte, de ce groupe religieux et de son leader.
Oui, cette secte-là, le leader, M. McKenzie, c'est un ancien baptiste ou un évangéliste qui a, comme on dit, il est devenu apocalyptique. Il dit, la fin du monde, ça s'en vient. La fin du monde, c'est proche. Jésus s'en vient pour nous juger. Donc, on doit se préparer. Et là, il a pris ses disciples parce que c'était un télévangéliste. Il y avait plusieurs milliers de disciples qui le suivaient. Il y avait sa chaîne YouTube. Et ils sont allés dans une région qui était près de l'océan Indien, au Kenya. Et là, il a dit à ces gens, ben là, on fait un jeûne total pour rencontrer Dieu. Parce que si on jeûne, on rencontre Dieu. Et juste pour que tu comprennes, dans son langage, il dit, il faut se crucifier. Et se crucifier, ça voulait dire quoi? C'est s'affamer, être prêt à s'affamer jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Et c'est comme ça, et les adeptes l'ont suivi. Et on a commencé à trouver, ça a commencé avec deux jeunes enfants qu'on a trouvés morts, et chez leurs parents, et là, la police, évidemment, a dit, écoutez, c'est peut-être toi qui as convaincu les mères de laisser ces enfants-là mourir, et on l'a accusé, et il y a eu une libération conditionnelle en attendant son procès, et là, les corps ont commencé à ressortir, c'est arrivé un peu à la mi-avril, ça a commencé 10, 90, là, on était à 180 la semaine dernière, on est rendu à 200, et on recommence à exhumer des corps, on pense qu'il y a environ 600 disparus. Et ce qu'il y a de cruel, oui, il y a des gens qui sont morts de faim qu'on a identifiés, d'autres ont été étouffés avant d'être enterrés, d'autres ont été battus, et dans certains cas, il manque des organes. Et pour aller jusqu'à l'horreur extrême, parce qu'il semblerait que dans certains cas, il y en a qui ont été enterrés, parce qu'ils ont été enterrés par des gens de la secte, qui respirent encore.
Si j'ai bien compris, lui disait, mangez pas, laissez-vous mourir de faim. Moi, je vais vous regarder mourir de faim et cet exercice-là va me permettre de rencontrer Jésus. Puis quand je l'aurai rencontré, à mon tour, je pourrai mourir.
Sans doute, oui. Et lui a déjà rencontré Jésus. Lui a déjà eu ses apparitions. Lui, ses apparitions, ils ont dit, il faut se préparer. Et là, évidemment, tout va parce que, écoute, t'es affamé. Sûrement que du fait, parce que ça, c'est un réflexe dans plusieurs sectes. On va affamer les gens, on va leur mettre des jeûnes. Écoute, dans certaines sectes, on appelle ça le respirianisme. Ça veut dire quoi? La lumière et l'air te nourrissent. On va jusque-là. On va couper les heures de sommeil. Et ça, on le voit dans plusieurs mouvements sectaires, comme je dis, apocalyptiques, là. Et c'est ça qui fait. Lui, il a pris des terrains. Il a revendu des terrains. Lui, il a fait son argent. Quand on le voit comparaître, il est très bien portant au niveau. C'est pas quelqu'un qui manque de nourriture, là. Donc, lui, fait attention à lui, mais pas ses... Et il est pas le seul accusé. Il y en a 26 parce que ses sbires qui sont avec lui, ils sont à peu près 26, qui sont aussi accusés. Et là, tout y passe de meurtre, terrorisme, là. Toutes les accusations sont là. On s'interroge au niveau du... On interroge le gouvernement. Comment ça se fait que vous avez laisser aller cette situation-là. Ils sont dans une région et tout le langage religieux existe. Ça veut dire que dans ce village-là qu'ils ont recréé, t'avais Jérusalem, t'avais Jéricho, t'avais Galilée. Et lui habitait en Galilée parce que Jésus habitait en Galilée.
Mais dis-moi, Alain, on a vu dans d'autres sectes, et là je pense entre autres à l'heure du Temple solaire, où il y a eu une première vague, puis il y a des gens qui sont décédés. Et parmi les gens qui ont survécu, il y en a qui regrettaient de ne pas avoir, disons, fait le transit, pour reprendre l'expression de l'époque, là. Est-ce qu'encore tu penses de ces fidèles qui le suivent, qui l'appuient et qui regrettent peut-être de ne pas être morts comme les autres?
Ah, ça, c'est certain. Il y en a qui le regrettent déjà. Et ça, on le voit chez les Davidiens, on l'a vu dans plein de mouvements sectaires, les gens regrettent. Et là, parce qu'il faut aussi voir, dans le pays voisin du Kenya, en Ouganda, il y a un pasteur, lui, qui avait barré les portes, il avait mis le feu. En ça, c'est en 2000, il y avait eu environ 700 morts. Donc, la réalité des sectes qui tuent énormément de personnes est réelle au Kenya, et c'est pour ça qu'on accuse le gouvernement, mais il y a beaucoup de gens qui disent, non, le gouvernement est notre ennemi, le leader le dit. Les médecins, c'est pas bon. Les hôpitaux, c'est pas bon. L'école, c'est pas bon. Et même, McKenzie disait, l'école, c'est pas bon parce que c'est pas dans la Bible.
Incroyable.
On est dans le délire à ce niveau-là. Et les gens sont affamés. Les gens ne dorment pas. Et on dit, les fameuses milivudes, c'est les organismes qui surveillent les sectes en France, disent, écoutez, c'est là où les personnes sont totalement vulnérables et font une foi aveugle avec leur leader. Et leur leader, si on l'accuse, c'est Satan qui l'accuse.
Merci beaucoup, Alain. Toujours intéressant. Bienvenue, Alain Bronkin, qui est un spécialiste des questions religieuses.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre ami Bertrand Dumont est de retour avec nous ce matin. Bonjour Bertrand.
Bonjour Paul.
À chaque fois que tu arrives, c'est comme si la météo jouait. La dernière fois, c'était après le verglas. Oui. Là, arrive avec ses températures un peu froides, des flocons de neige un peu au centre-ville. Et là, les gens vont pouvoir te poser des questions sur le potager, sur le ménage du jardin, les jardinières, les boîtes à fleurs, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais donner le numéro encore, là, 514-790-9850. Fais-moi ta première analyse de ce début de printemps, là.
Normal. C'est un printemps normal. On est au Québec. Moi, depuis 40 ans, 45 ans, je regarde ça, puis c'est à peu près normal. Avant la fête de la Reine, ou fête des Patriotes, ou fête des fleurs, on choisit ce qu'on veut, ben, il y a toujours une petite période là où il fait plus froid. Je te dirais que c'est pas catastrophique qui s'en vient. Ce qui est catastrophique, c'est pour les plantes d'origine tropicale. Tomates, concombres, courges, ça, on les laisse en dedans si on peut. Mais pour le reste, là, les laitues, tout ça, là, 6, 7, 8 degrés la nuit, là, c'est pas un problème. OK? Moi, je vais juste rappeler aux gens l'année dernière, où on a eu cette température un petit peu difficile, jusqu'à fin du mois de juin. On a eu la pire année de jardinage en 2020.
Attends, rappelle-nous ça, c'est important.
En 2022, ça a été la pire année de jardinage. Et quand, au début de l'année, avec mes amis horticulteurs, on s'est dit, ça se peut pas que ce soit aussi pire que ça. Les tomates goûtaient rien, les concombres arrivaient pas, c'est une année.
Et pour quelle raison?
Ben, la température. Nous, on sait pas. On sait pas la température. El Nino, El Nina, je ne sais trop, moi. je te dis, c'est ça. Donc, c'est vraiment une année de misère l'année dernière. Là, c'était, les tomates sont arrivées très tard. Normalement, habituellement, au 14 juillet, les premières tomates, c'est arrivé deux semaines plus tard. La température, il a fait froid. C'est-à-dire que ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu de la température très chaude à un moment donné. Alors, tout le monde s'est énervé. Et là, la température a descendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes ont besoin de ce qu'on appelle un zéro de croissance. Okay? Et zéro de croissance, mettons, chez la tomate, c'est 10 degrés. En dessous de 10 degrés, elle va se mettre en dormance. Le problème qu'il y a, c'est que si le 10 degrés dure 4-5 jours, la plante, elle se met en dormance, puis elle prend deux semaines avant de repartir. Si c'est une journée ou deux, c'est pas si pire. Mais si c'est long, ben là, ça va prendre. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière.
Mais est-ce que ça veut dire une récolte tardive,
oui,
et des tomates, par exemple, de moins bonnes...
L'année dernière, les tomates, c'est les pires tomates que j'ai jamais mangées de ma vie, de mon potager. Là. Ça goûtait rien. Là. Ça goûtait rien. Ça goûtait la flotte. Il n'y avait pas de chaleur. Il n'y avait rien eu. Là. Cette année, nous avons une année chaude. Tant mieux, là. Mais c'est ça. C'est que les légumes, eh bien, ils se gorgent de soleil. Rappelons que la plante, 80 à 95% de sa nourriture, elle le prend par le soleil. L'engrais, ce n'est que 10 à 15%. C'est uniquement ça. Donc, s'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, ben, les fruits vont mûrir plus. Ils vont avoir tout simplement plus de sucre. Pourquoi? Parce que c'est avec le soleil que toutes le métabolisme se fait. Donc, il va y avoir plus de sucre. Ils vont être plus sucrés. Ils vont être meilleurs. C'est aussi simple que ça.
OK. Alors, tu dis pour ce qui est du tropical, là, ça peut être un enjeu.
Oui, moi,
cette année.
Mes tomates sortent pas. De vendredi, je sors laitue, choux, et ainsi de suite. Là. Donc, basilic, je ne sors pas. Donc, tomates, courges, haricots, je vais les sortir, ça va dépendre de la grosseur qu'ils ont. Mais on peut semer les carottes, on peut semer les radis, on peut semer les pois, on peut semer sans problème parce que la température va arriver. Donc, il n'y a aucun problème.
Et quand il y a des variations de température, là, on le voit là, 25 vendredi, puis ouais, zéro la nuit prochaine, ouais. On laisse aller ou on intervient d'une façon ou d'une autre?
Si on a sorti ces plantes parce qu'on n'a plus de place dans son sous-sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une toile. Si on voit que la température descend en dessous de 5 degrés, ben, tout simplement, on met une toile, un vieux drap pour les anciens auditeurs de CKAC. C'était un drap picoté carotté qu'on avait défini avec
Janine.
Oui, hein, donc, un vieux drap picoté carotté. Donc, un vieux drap, on met ça le soir vers 5-6 heures. On enlève ça le matin vers 7-8 heures. Là, habituellement, ça va passer. Là, si ça dure une journée, deux jours. Si ça dure longtemps, c'est un autre problème.
Bon, dans l'écosystème à la fois du potager et de la cour, il y a beaucoup de gens qui joignent des courriels, par exemple, qui me disent, bon, on a des problèmes avec des insectes, il y a ci, il y a ça. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des présences nouvelles qui peuvent venir menacer mes aménagements?
Oui.
Oui. J'étais sûr que oui, alors oui. Je t'écoute.
Il y a le longicorne, il y a aussi un autre dont je me souviens jamais le nom, le flugie pas trop quoi, là. Mais oui, il y a des modifications. Dans les maladies, c'est un petit peu différent. On va avoir des dates un peu plus, mais dans les insectes, on va surtout avoir des insectes qui vont avoir plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a certains insectes, c'est une génération pour se développer. Pourquoi le temps qu'ils se développent? Mais là, ils vont avoir beaucoup plus de temps, ils vont avoir deux, trois générations pour se développer et donc ils vont faire plus de dégâts.
OK. Et comment on gère ça?
Alors, on gère ça, c'est compliqué de gérer ça. On essaye d'avoir le jardin le plus biodiversifié possible. OK? C'est-à-dire que le grand problème qu'on a, c'est que quand vous faites un champ de maïs, puis il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui. Avant, on faisait des hectares et des hectares de maïs. Maintenant, on fait des bandes au milieu du maïs d'autres choses. Okay? Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, si le petit insecte dans le maïs qui veut bouffer le maïs, il rentre dans un coin, il a toute la place pour se développer. Sauf que s'il arrive et puis il tombe, mettons, sur du blé, ben là, il est plus capable de manger du blé, puis il peut pas sauter de longue période. Donc, si vous avez un jardin bien biodiversifié, vous réduisez. En biodiversifiant, vous allez avoir de plus en plus d'insectes utiles. Rappelons que 95% des insectes sont utiles. 5% nuisibles. Sont ravageurs.
Ouais. Nuisibles. On va aller aux appels du public et je peux mettre les écouteurs. Oui. Je rappelle le numéro 514-790-9850. Si vous avez des questions pour Bertrand sur le potager, sur vos fleurs, c'est le moment, là, puis on se dirige vers le beau congé de la fête des Patriotes. On commence avec José. Oui, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bonjour, je vous écoute, et Bertrand aussi.
Bonjour, c'était pour vous demander. Moi, je plante depuis à peu près 3-4 années de l'ail du Québec. Et puis, mes gousses, elles restent petites.
D'accord.
Qu'est-ce que je fais de pas correct?
Quand est-ce que vous plantez votre ail?
À l'automne.
À l'automne, OK. Est-ce que vous mettez un petit peu de compost avant de planter?
Non.
Bon, c'est ça. C'est que votre terre est peut-être un petit peu pas... Est-ce que vous remettez de l'ail toujours à la même place?
Oui.
Ah, ça, c'est un problème. Là, il faut le déplacer. Il faut faire des rotations.
Ah, oui.
Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'il peut y avoir c'est-à-dire que c'est comme si vous mangez toujours la même chose, hein. Si vous mangez toujours steak patate, là, vous allez m'en finir par avoir des problèmes de santé. Bon, ben, votre ail, c'est pareil. Donc, il faut, si vous le plantez à la même place, il faut rajouter du compost, il faut rajouter un petit peu d'engrais. Même si là, il n'y a pas une plante qui demande beaucoup d'engrais, il faut quand même en rajouter parce que là, elle va avoir la première année pris tout, et puis là, il n'y a plus assez de nourriture.
J'avais déjà entendu parler que c'était bon de plier le pied.
Non, j'ai oublié ça. Ça se fait sur l'oignon à la fin de la saison, mais pas sur l'ail. Parce que l'ail que vous faites au Québec, c'est de l'ail à tige dure qui se plante à l'automne. Il y a aussi de l'ail à tige molle qui, lui, c'est ce qui est fait en Europe pour faire les tresses notamment, qui se plante tôt au printemps. Donc, si c'est à l'ail du Québec, c'est l'ail à tige dure. Et lui, quand c'est pas les tiges, vous allez l'abîmer. Ça se fait sur les oignons au mois d'octobre.
OK. Merci, madame, d'avoir appelé.
Merci.
Bonne journée. Autour de Jean. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Moi, je suis un citoyen de Varennes, puis à l'automne dernier, dans ma cour, j'ai planté des asperges.
Oui.
On m'a dit que ça prenait un sol sablonneux. Comme j'avais ma piscine, j'ai mélangé le sable qui était en dessous de la piscine avec de la terre, puis de l'engrais, tout ça. Puis j'en ai planté une trentaine. J'en ai 16 qui sont sortis. J'étais content. Mais pour les autres, est-ce qu'elles sont déjà mortes ou il y a des possibilités que ça sorte encore eu égard à la saison?
Ben, je vous dirais qu'il faut attendre là, jusqu'à la fin mai au minimum pour le savoir. Là. Puis je vous rappellerai aussi de ne pas cueillir vos asperges cette année.
Non, c'est ça, ils disent d'attendre 2-3 ans.
C'est ça, 2-3 ans, c'est une plante vivace, là, donc attendez 2-3 ans. 50% de réussite, c'est pas beaucoup, mais je vous dirais, faut attendre un peu, là, tout est pas encore sorti, là, ça peut encore sortir. Dépendant de la profondeur où vous les avez mises, ils peuvent encore sortir. Attendez là, au moins la fin mai pour prendre une décision.
Mais attendez, les asperges, ça prend 2 ou 3 ans?
Les asperges, c'est des griffes, ce qu'on appelle, okay? Donc, on les plante dans le sol, mais le temps qu'elles commencent à produire, il faut qu'elles fassent des réserves, OK? Donc, si on les laisse, on les prend puis on les coupe tout de suite, ben, il y aura pas de tige. Parce qu'une fois que l'asperge est sortie, c'est une tige. Et cette tige-là va faire du feuillage. Donc, le feuillage, va faire son métabolisme, va faire grossir la griffe. Et puis là, à ce moment-là, on commence au bout de 2 ans à récolter les premières griffes, les premières. Et on récolte jamais 100% des asperges sur un plant. Parce qu'il faut qu'il fasse son métabolisme complet pour refaire des réserves puis refaire des nouvelles pousses.
Parfait. On se tourne vers Kamal. Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous écoute, monsieur.
Donc, comme je disais à la personne qui m'a pris au téléphone, là, moi, à chaque année, rien ne pousse. Et je fais tout ce qu'il faut. Il manque, comme j'ai dit à votre collègue, il manque cette nuit que je mets du caviar. J'ai mis de tout comme engrais. Rien. J'ai mon voisin. Même s'il met un caillou, il a des roses, il a un rosier. Un caillou, il plante un caillou, il y a un rosier qui pousse. Je sais pas. Et là, à la longue, je me suis dit, c'est fini. Là, là c'est du gaspillage, je plante, il n'y a rien du tout. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une très bonne idée. Eh ben, je m'en vais à la ferme Mario. Est-ce que j'ai besoin, je l'achète.
Ben oui, c'est énorme, mais c'est ça. C'est parce que ça dépend de votre terrain, effectivement. Quand on n'arrive pas à le faire, ben, tout simplement, on l'achète.
Oui, parce que peut-être. Mais est-ce qu'il y a vraiment des endroits où on ne peut rien faire pousser?
Pas beaucoup. J'ai fait une expérience quand j'étais bénévole à la ville de Boucherville. On a fait le jardin du 350e dans un terrain qui est un terrain absolument incroyable. Et on avait pas beaucoup de temps. On avait 2 ans pour le faire. Et l'agronome m'a dit, oh, tu seras jamais rien capable de rien faire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en réalité, j'ai bourré ça de compost. C'est-à-dire que normalement, on met à peu près 2-3 pouces de compost, j'en ai mis 15 à 20 pouces.
15 à 20 pouces?
Non, pas 15 à 20 centimètres, là. Excusez-moi pour les pouces. Pour dire le coup. J'en ai mis beaucoup, là. J'ai presque mis 30 centimètres de compost. Et là, j'ai tout mélangé à la terre. Et là, ça a fonctionné, donc. Et oui, il y a des moyens. Il y a des terres qui sont des terres de Caïn, ce qu'on appelle, qui n'y a rien à faire. Mais en général, si on met beaucoup de matière organique, on va finir par avoir un résultat.
Parfait. On va aller voir Mathieu maintenant. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, Mathieu Lavoie, en fait.
On vous écoute, monsieur. Allô?
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend, monsieur. Allez-y.
Excellent. En fait, nous, on a un déterrateur pour mettre la nourriture, si on veut, les restes de nourriture de table, pour le mettre là-dedans.
Monsieur, malheureusement, c'est parce que je vous entends pas du tout. Là. Il y a visiblement un problème avec la ligne. C'est dommage. Je vais prendre des questions qui sont sur le web. écoute la question. Pour ce qui est des plantes, des fleurs, tout ça, en fait, l'auditeur se prépare un gros week-end de plantation.
Oui.
Okay.
Oui.
Là, il connaît plus ou moins ça et il se dit, est-ce que j'en mets beaucoup par endroit, peu par endroit? Quel type de fleurs? Il habite sur la rive sud de Montréal.
Alors, quel type de fleurs? Ça, c'est l'œil qui va vous le dire. Hein, donc, vous choisissez la fleur que vous avez le goût d'avoir. Et après ça, pour la distance de plantation, ben, vous regardez sur l'étiquette, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a des plantes, je pense à des bégonias sans perflorence, que vous plantez à peu près à 5-10 cm d'écart. Mais si vous plantez des cléomes à 5 ou 10 cm d'écart, elles vont pas pousser parce qu'elles vont pas, elles vont s'étouffer. Donc là, on parle plus de 30-40 cm. Donc, chaque type de plante a sa distance. Vous plantez pas un chêne à la même distance qu'un pommier, là, parce qu'un chêne, ça devient énorme, alors qu'un pommier, ça devient plus petit. C'est une question de logique, là. Puis après ça, moi, je dirais aller avec madame, et puis demander à madame ce qu'elle aime, puis planter ce que madame aime, en général, c'est
assez gagnant. Puis est-ce qu'il y a des trucs tendance actuellement dans les serres?
Honnêtement, là, c'est le potager.
C'est vrai?
C'est 57%, c'est un chiffre qui est sorti récemment, 57% des achats aujourd'hui sont dans le potager.
Ben, l'inflation doit y jouer pour quelque chose.
L'inflation joue énormément, et moi, j'invite les gens à... Les gens qui commencent la première année vont trouver que c'est pas tellement anti-inflation parce qu'il faut se démarrer, là. Mais une fois que c'est... Moi, actuellement, dans mon sous-sol, j'ai des tomates qui m'ont coûté 15 cents chaque.
Elles étaient pas bonnes, tu m'as dit ça tantôt.
Non, mais mes tomates de cette année. Je parle pas des tomates à manger. Elles sont mangées, celles-là. Oubliez ça. Mais mes plants de tomates, là, ils ont coûté 15 cents, là, tu sais. Fait que c'est pas cher, là, tu sais. Donc, à ce moment-là, puis je vais manger des tomates tout l'été. Et j'ai même des plants où je vais faire Janine va faire toute la sauce tomate, parce que c'est pour moi qui l'a fait, soyons honnêtes. Donc, Janine va faire toute la sauce tomate pour l'année. Donc, je veux dire, c'est des coûts. Moi, je l'ai calculé, OK? Nous, on congèle tout, on fait 350 pots de confiture, on fait tous les petits fruits, les fruits, ainsi de suite. On l'a calculé une année. On a fait 2 000 $ d'économie.
Faut le faire. Bertrand, toujours intéressant, merci d'être venu. Vous pouvez écouter son balado qui s'appelle Radio Légumes et compagnie.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Frédéric, des tendances aux allures racistes qui se multiplient sur TikTok.
Dans le cas qui nous intéresse ce matin, c'est relativement aux Autochtones. Deux tendances qui dérangent, mises en lumière par le célèbre TikToker québécois Abénaki, Xavier Watso. Et la première tendance controversée, vous savez, peut-être que vous avez déjà vu le symbole des femmes autochtones assassinées ou disparues. C'est incarné par une main rouge étampée au visage avec de la peinture en guise de solidarité. On voit ça dans différentes manifestations, dans des événements en soutien aux Autochtones. Ben, il y a un trend de TikTok qui a découlé de ça. On s'accapare pour de mauvaises raisons, le signe de la main rouge au visage, et c'est utilisé par des jeunes femmes non autochtones, jalouses de d'autres filles qui charment leur chum et laissent croire que c'est le même sort qui les attend, c'est-à-dire de disparaître. Donc, se mettre une main rouge au visage en voulant dire...
Ça vient d'où, ça?
Ça vient des réseaux sociaux de TikTok. Mmh. Ça s'est promené pas mal et ça fait pas mal réagir Xavier Watso.
Ben là, c'est violent juste à la base, mais c'est violent envers les Premières Nations parce que c'est un symbole que nous, on met de l'avant depuis plusieurs années. C'est un symbole qui n'est pas à prendre à la légère. Puis le problème avec le trend, c'est que c'est fait pour niaiser. Ils réfléchissent pas aux conséquences, en fait, de reprendre ce symbole-là pour faire une joke.
C'est hyper controversé, si bien qu'il y a eu un contre-mouvement tellement important qui est devenu plus gros que la tendance en tant que telle. Et c'est pas la première fois qu'on utilise ce symbole-là pour autre chose. Ça revient de manière cyclique sur les réseaux sociaux. Et autre tendance controversée, le filtre Apache Runner. On connaît, bon, les filtres d'oreilles de chat, la
langue de chien, mais là, c'est une toute autre affaire. C'est un petit bonhomme avec une coiffe en plume. Vraiment le cliché, le cowboy contre les Indiens. Il y a un trou dans le milieu pour mettre le visage de la personne qu'on filme. Et le petit bonhomme a une espèce de flèche dans les mains, il court très vite. Et c'est souvent accompagné de musique un peu tribale ou de style Annie Cooney, là. Loin d'être chic, selon Xavier Watcho.
Il y a du monde qui sont comme, c'est juste une joke, mais non, c'est pas juste une joke, parce qu'en bout de ligne, ça nous stéréotype, ça nous infantilise. Je sais pas si ça nous... C'est dégradant, c'est faire une moquerie des Premières Nations, c'est inacceptable.
Et tu peux pas faire un rapport pour un filtre, tu peux le faire sur une publication, de dénoncer une publication, mais un filtre en tant que tel, c'est difficile à faire disparaître et c'est assez controversé.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.